faire les choses. La revue sonore.
Madame Martin. Sept comédiens se retrouvent pour lire un article d'Anne-Cécile Huard publié dans la revue Médor.
Emma Ducaïla Martin est morte dans la solitude la plus complète. Elle était ma voisine. Les secours sont entrés par le balcon. Ils ont trouvé son corps dans la cuisine. La porte d'entrée de l'appartement était barricadée par des chaises. J'aperçois ses chevilles et ses pantoufles.
Vu l'état du corps, le décès remonte à une dizaine de jours au moins.
Emma Ducaïla Martin avait 96 ans. Elle était ma voisine du dessus depuis 12 ans. Je l'avoue, je l'ai souvent évitée dans l'immeuble. Elle avait la manie de m'interpeller en m'agrippant le bras de ses doigts crochus pour me postillonner au visage des mots presque incompréhensibles au sujet de la reine Astrid ou des noirs qui occupaient autrefois mon appartement. Une épaisse perruque de cheveux châtains, ondulés, copiée de la coiffure de Fabiola, couvrait son mince visage strié de rides. Son dentier ne tenait plus en place, ce qui rendait son élocution périlleuse. Entre deux phrases, ses gencives laissaient s'échapper des restes de mie de pain imbibés de salive. Son audition défaillante la poussait à s'époumoner pour me parler. Sa voix puissante, Madame Martin l'employait à une étrange manie. Il m'a fallu du temps pour comprendre que tous ces
« nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu »
qui traversaient les murs de mon appartement émanaient de chez elle. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un homme qui engueulait son chien ou sa femme. Jusqu'au jour où j'ai collé mon oreille à la porte de ma voisine. Et oui, c'était bien elle, cette petite dame presque centenaire qui produisait ses grossièretés à longueur de journée. Mais comment un être aussi âgé et frêle pouvait-il donc produire de tels sons? Désinhibée par l'âge, se laissait-elle aller à l'envie d'évacuer les rancœurs et frustrations accumulées tout au long de sa vie? En 12 ans, je n'ai jamais vu Madame Martin raccompagner un visiteur dans le hall. Elle n'attendait plus que la mort. Un jour, elle me balance entre deux portes.
J'ai demandé au docteur de me faire une piqûre pour que je parte, mais il a refusé.
Je la voyais régulièrement trimballer ses sacs depuis l'Aldi, situé de l'autre côté du boulevard. Elle avait presque les allures d'une sans-abri. Par temps de pluie, elle recouvrait sa perruque d'un fichu en plastique. Sa frêle silhouette escaladait une à une les marches menant à son appartement, au premier étage de notre immeuble scarbécois Art déco. Emma Martin ne prenait jamais l'ascenseur. Et que ses voisins ne s'avisent pas de l'aider à monter ses courses. Ceux qui s'y risquaient recevaient un coup de coude en récompense. Du haut de ses 96 ans, elle avait sa fierté, Madame Martin. Mais cet après-midi-là, la chaleur est trop forte. Sous le soleil d'été et son lourd manteau en feutre, couleur vert chasseur, Emma Martin titube. Je la trouve assise dans le hall d'entrée, incapable de bouger. Cette fois, elle accepte mon bras pour grimper chez elle. Je lui demande si elle a de la famille, un médecin que je pourrais prévenir. Elle fait mine de ne pas comprendre.
J'ai un neveu qui veut prendre mes sous.
Je réalise soudain que depuis que j'habite cet immeuble, l'appartement juste sous le sien, c'est la première fois que je m'intéresse à elle. Au fil des semaines, se rendre au magasin lui est de plus en plus pénible. Je trouve un jour un mot sous ma porte, d'une écriture stylisée, malgré une main tremblante, presque majestueuse. Elle m'adresse une liste de produits à acheter à l'Aldi.
3 boîtes de riz au lait, 2 boîtes de sardines, des galettes molles de la marque Valérie, 6 œufs et de la margarine enrichie aux oméga-3.
Cette énumération se complète d'une feuille sur laquelle ma voisine a soigneusement collé l'étiquette de chaque produit. On dirait un exercice de maternelle. Colle devant chaque mot l'emballage qui correspond.
Ne vous trompez pas. L'enveloppe contient un billet de 50 euros.
Le lendemain, je sonne chez elle pour lui donner ses provisions. Elle ne répond pas. Je laisse alors le sac noué sur le pas de sa porte. J'ai oublié de payer par compte séparé. Je n'ai pas de monnaie. Je lui rends donc ses 50 euros. Le surlendemain, une lettre me remercie chaudement. Je trouve également la somme exacte correspondant au prix des courses au centime près, conformément au ticket de caisse qui se trouvait dans le sac. Quelques mois plus tard, en février 2017, je m'étonne de ne plus l'entendre jurer. J'attends quelques jours, puis glisse un mot sous sa porte, demandant si tout va bien. 48 heures après, le papier n'a pas bougé. Les secours le ramasseront quelques heures plus tard. Sans ces jurons qui se sont tus, son corps aurait pu rester là longtemps jusqu'à ce que l'odeur de putréfaction finisse par atteindre la cage d'escalier. Axel Barth, commissaire de police à la zone Midi, est coutumier de ce genre d'intervention.
J'emporte toujours un pot de baume Vix avec moi. L'odeur de certains cadavres vous colle à la peau. On découvre aussi parfois des corps, après plusieurs mois, complètement desséchés, comme des momies.
Le travail de la police est souvent entravé par la difficulté de trouver un médecin pour constater le décès. Mal payé et souvent avec des mois de retard, ceux-ci rechignent à se déplacer, parfois en pleine nuit.
Il nous arrive de payer le médecin avec l'argent que l'on trouve sur place, dans les tiroirs ou dans les livres. On demande bien sûr un reçu, c'est transparent.
Même si la mort semble naturelle, la découverte d'un corps entraîne automatiquement une enquête de police.
On arrive un jour chez un homme dont les proches n'avaient plus de nouvelles. Le gars est assis dans son fauteuil, la télé allumée, une grosse blessure sur la tête. Le médecin a déclaré qu'il s'agissait d'une mort suspecte. Dans ce type de cas, on observe aussi les lieux. Est-ce qu'il y a des traces d'effraction, de violence, de bagarre ? On regarde aussi si la victime était connue de nos services. Avait-elle porté plainte récemment envers quelqu'un qui la menaçait, qui le menaçait ? On effectue par ailleurs une enquête de voisinage pour savoir si quelqu'un aurait perçu des bruits suspects, par exemple.
Ces observations peuvent éviter que des crimes échappent à la justice pénale. D'après Jean-Paul Bautier, de l'unité de médecine légale de l'ULB, ce serait le cas pour 10 et 15% des homicides.
Le respect des morts passe aussi, surtout, par le fait de tout faire pour comprendre ce qui s'est passé.
Au soir de la découverte du corps de Madame Martin, j'ai reçu la visite formelle de la police locale à qui j'ai raconté tout ce que je savais. Les agents ont contacté le notaire dont le nom figurait dans une pile de documents située à côté du lit de la défunte. C'est lui qui a organisé l'enterrement au cimetière de Bruxelles. Emma Martin avait tout prévu. Avec un autre voisin, nous avons tenté de connaître la date de son inhumation, mais n'avons pas reçu de réponse. Les employés des pompes funèbres et les fossoyeurs ont donc été les seuls à accompagner Madame Martin vers sa dernière demeure. Avec le médecin et le notaire, l'officier d'état civil fait partie des premières personnes contactées par la police lorsqu'une personne isolée décède.
C'est lui qui radie une personne des registres de population. Il officialise ainsi la fin de l'histoire.
Pour tenter d'humaniser ces fins de vie dans la solitude, la commune de Jette a instauré un service de bénévoles qui organise pour ces morts des cérémonies d'hommage.
L'idée émane d'une expérience personnelle. Je n'ai appris le décès de ma tante que 10 jours plus tard.
Explique Claire Van de Viver, échevine de l'état civil à Jette.
Les communes contactent uniquement les conjoints ou les enfants du défunt. Elles n'ont que peu de pouvoir d'investigation. Or, le mari de ma tante est décédé et elle n'avait pas de descendance.
Ce service jettois, appelé les pleureuses, intervient une 20aine de fois par an. Les cérémonies se déroulent en présence de quelques bénévoles et d'un représentant communal.
Chacun dit au revoir à la personne à sa manière, avec des textes et de la musique.
S'il n'y a pas assez d'argent dans la succession et qu'il n'y a plus de descendants ou qu'ils sont insolvables, c'est la commune qui prend en charge les frais d'inhumation. La plupart des cimetières disposent d'emplacements en terre commune, gratuits, pour une durée de 5 ans. D'après une étude de la Fondation Roi Baudouin, sur le territoire de la ville de Bruxelles, entre 100 et 200 personnes décèdent dans l'indifférence, sans qu'aucun proche ne s'en soucie, que ce soit chez elles, à l'hôpital ou dans la rue. De grosses communes bruxelloises comme Schaerbeek, Ixelles, Forêt ou Uccle comptent entre 30 et 50 cas par an. Les chiffres diminuent à mesure qu'on s'écarte des centres urbains. Mais qui était Emma Martin? Le notaire Bormans constitue l'une des dernières personnes à l'avoir côtoyée.
Madame Emma venait nous voir de temps à autre pour des conseils.
Explique-t-on à son étude?
C'est quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Elle écrivait des poèmes, elle nous parlait de l'académie. Je suppose que, vu son âge, la plupart de ses contacts étaient décédés.
Ma voisine avait une vie publique. 2 prix culturels sont décernés en son nom. Le premier porte son patronyme complet.
Emma Ducaïla Martin.
Il s'agit d'un prix biennal d'un montant de 2000 euros. Au moment de sa création, en 91, il s'élevait à 2500 euros. La somme a été revue à la baisse en 2009. Il est toujours géré par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Fondée en 1769 par l'impératrice Marie-Thérèse, cette institution a pour mission de promouvoir les travaux de recherche et d'encourager les entreprises scientifiques et artistiques. Le second prix est décerné par l'Association des écrivains belges de langue française. D'un montant annuel de 1000 euros, il récompense successivement un recueil de poèmes, de contes ou de nouvelles, ou encore un roman. L'argent offert par Emma Martin aux 2 institutions permet donc de dégager 2000 euros par an depuis près de 25 ans.
Elle assistait aux remises de prix et à la réception qui suivait.
Béatrice Denuy a été responsable du prix de peinture.
Je me souviens de sa belle et grande écriture régulière. Elle était très exigeante. Je pense qu'elle avait été institutrice.
Contactée via l'Association des écrivains belges de langue française, Claire-Anne Magnès, membre du conseil d'administration, est d'abord persuadée qu'il s'agit d'une autre personne.
Emma Martin. Ah oui, oui, j'ai connu une Emma Martin, mais elle est décédée depuis longtemps. Il doit s'agir d'un homonyme.
Je lui décris ma voisine, une petite dame au teint pâle qui portait une perruque assez méticuleuse.
C'est curieux.
Mon interlocutrice hésite.
Ben oui, celle que je connaissais portait aussi une perruque. Elle assistait aux remises des prix. Je la vois déposer des boudoirs sur une assiette. Elle coupait chaque biscuit en 2, je trouvais ça bizarre.
Ma voisine était tellement discrète.
C'est fou que personne ne se soit jamais inquiété de ce qu'elle est devenue.
Que certains la croyaient déjà morte.
Que personne n'ait jamais proposé d'aller la chercher pour lui permettre d'assister aux remises de prix. Et ça, malgré les sommes importantes qu'elle avait dû léguer aux deux institutions.
En plus d'être passionnée de peinture et de littérature, ma voisine était également férue d'agronomie. Dans son testament confié au notaire Bormans,
« Moi, Emma Maria Freda Martin, née à Jodogne le 15 mai 1920, célibataire de nationalité belge, pensionnée, institue comme légataire universel une fondation privée ayant pour but de soutenir, par l'attribution d'un prix annuel à une personne ou une organisation, tout projet ayant un rapport direct avec l'agronomie, au sens le plus large. »
L'ensemble de son patrimoine, ses biens, meubles et immeubles, ont été affectés à cette fondation, dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 7 avril 2017.
Ce n'était pas très précis, mais elle voulait faire quelque chose pour la planète.
Emma du Kaila Martin n'avait pas de descendance. Elle s'est dès lors acheté une place dans la postérité. Ma voisine avait ainsi tout préparé pour le jour de son trépas. Tous les notaires n'ont pas la vie aussi facile lorsqu'il s'agit de clôturer celle d'une personne isolée.
J'ai un dossier qui traîne depuis 30 ans. Deux sœurs ne sont jamais parvenues à s'entendre et l'héritage est resté là. Parfois, nous devons même effectuer des démarches auprès du registre national, parfois avec l'aide d'un généalogiste.
Quand il n'y a plus aucun descendant, les biens d'un mort vont à l'État. En 2016, les successions en déshérence ont rapporté au fisc belge 14 921 503 euros. Un vide-grenier, mandaté par le notaire Bormans, est venu débarrasser l'appartement de ma voisine. Ses meubles, ses tapis, ses livres et ses bibelots ont été emportés en deux jours. Son appartement a été liquidé en vente publique. Il est parti en trois semaines. L'acheteur a fait une très bonne affaire. Un seul objet a échappé à ce remue-ménage. Un petit buste en plâtre que Madame Martin m'a légué. Il est à l'effigie de la reine égyptienne Néfertiti. Une autre dame a la vie bien mystérieuse.
Madame Martin, un article de Anne-Cécile Huard, publié dans le numéro 10 de la revue Médor. Avec les voix d'Agnès Guignard, Janine Godinas, Roxane Brunet, Sybille Cornet, Claire Gatineau, Pierre Sartenard et Didier Denec. Musique, Dimitri Kopp. Une production du Grain des Choses.